Vous êtes avec SBS French.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur les antennes de la radio SBS M. Chimanga Bea, Direct Manager chez Start, du service au New South Wales de traitement et de réhabilitation des survivants des tortures et des traumatismes. Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, M. Chimanga.
Merci, c'est un plaisir.
Nous prenons contact aujourd'hui dans un cadre particulier. C'est le cadre de la COVID qui affecte les communautés africaines et comment ces communautés donc sont affectées et surtout les services qui sont disponibles pour leur venir en soutien et les aider à traverser cette crise. D'abord, votre organisation est spécialisée dans le traitement des traumas. Parlons d'abord des traumatismes qui affectent ces communautés.
START, c'est le, ce qu'on appelle en anglais Refugee Trauma.
Oui.
Donc le traumatisme est lié à la vie de réfugiés à partir de leurs expériences dans leur pays d'origine et à la période de transition. Il y en a qui finissent par passer des années dans le camp de réfugiés, puis quand ils arrivent en Australie, ben c'est une série d'expériences qui se traduisent à ce qu'on appelle le traumatisme pour eux, quoi.
Donc, ils ont déjà vécu des traumatismes avant d'arriver en Australie. Et arriver ici, ça présente des challenges au niveau de la réinstallation.
Ça, la réinstallation même peut être traumatique hein, pour certains.
Oui.
Ça dépend aussi de ce qu'ils ont vécu comme expérience. Est-ce qu'ils sont traumatisés quand ils arrivent en Australie? Donc, ils se voient avec une capacité très réduite de tolérance ou de supporter le stress.
Oui.
Ce qui fait que pour eux, c'est un peu difficile, quoi, le stress de se retrouver dans un environnement qui est tout à fait nouveau et d'être, comment dire, séparé de leurs membres de famille, surtout ceux qui leur sont chers. Ils sont un peu perdus, quoi, sur le plan mental. Et perdu aussi dans le sens d'être dans un environnement qui n'est pas familier pour eux, quoi.
Oui.
Et tout ça, c'est stressant.
Quand ils arrivent en Australie, ce n'est pas nécessairement le premier pays d'accueil. Ils passent par différents pays avant de se retrouver en Australie. Donc, un troisième pays d'accueil, troisième expérience des traumatismes. Et ces traumatismes en Australie, qu'est-ce que vous mettez en place pour les aider à traverser ces traumas?
L'Australie est l'un des pays à avoir un système en place très, très efficace pour la réinsertion de réfugiés dans la vie normale. Donc, quand ils viennent déjà, il y a ce qu'ils appellent le Settlement Services qui les accueille. Ils passent quelques jours, je crois, dans un hôtel jusqu'à ce qu'on leur trouve un endroit où habiter. START fait partie de ce plan, là, le plan de resettlement, d'établissement, yeah, c'est ça ce qu'on dit en français, d'établissement en Australie. Donc il y a l'aspect mental, l'aspect psychologique, et c'est après avoir passé les quelques mois, il y en a qui viennent par exemple pendant les 3 mois d'installation, sont introduits à certains services, comme Centrelink, Medicare, il y en a même qui sont introduits à des médecins, d'ophtalmologues, dentistes et tout ça. Ça dépend de leurs besoins. Et après les 3 mois, pour ceux qui se présentent avec des problèmes mentaux ou psychologiques, alors ils sont identifiés et on les transfère, on les envoie chez nous et on fait ce qu'on appelle assessment. On essaie un peu de voir leur situation. Initialement, ce qu'on fait, c'est d'identifier le nombre de problèmes qu'ils ont. On appelle ça en anglais stressors, ce qui cause le stress, et voir dans quelle mesure les aider à réduire le stress pour améliorer cette expérience d'insertion dans la vie de tous les jours en Australie.
Oui. Et à ces stress originaux, donc on a vu 3 pays où ils ont vécu des expériences vraiment traumatisantes et stressantes, s'ajoute le stress de réétablissement et maintenant un nouveau fardeau s'abat sur eux, le fardeau de la COVID-19. Est-ce que vous avez dû assister des gens qui sont affectés par ce nouveau fardeau?
Oui, on le fait tous les jours. Ce qui est bien en Australie, c'est que nous travaillons avec d'autres organismes ou services sur place. Bon, comme je t'ai dit avant, nous, on se focalise beaucoup sur le côté mental, quoi. On reçoit ce qu'ils appellent « referral ».
Oui.
Ils sont envoyés par référence à STAT. Ben, il y a aussi une autre voie d'entrée, c'est direct, quoi. Un membre de famille peut se soucier de son frère ou sa sœur ou ses enfants qui sont en train d'avoir difficile à gérer le COVID-19, l'impact du COVID-19, et ils peuvent aussi les référer à nous. Bon, de façon générale, quand un individu est affecté par le traumatisme, quand on dit que quelqu'un est traumatized, c'est-à-dire que les expériences que cette personne a vécues ont tellement impacté ou affecté son corps,
oui,
et la capacité pour le corps de supporter le stress, mais aussi le mécanisme naturel de réagir dans des situations stressantes. Il y a un concept qu'on appelle le window of tolerance. C'est-à-dire que, bon, littéralement, on dirait fenêtre de tolérance, mais là, c'est justement pour dire que la capacité de tolérer le stress est réduite.
Oui.
Pour ceux qui ont connu le trauma dans leur vie, qui ont été traumatisés. Dans les situations du COVID-19, il y a d'abord le fait qu'on soit isolé. L'isolement, c'est un moyen que le gouvernement a jugé, ou bien l'Organisation de santé mondiale a jugé bon pour gérer le COVID-19,
oui,
pour essayer un peu de limiter la propagation de la maladie.
Oui.
L'isolement, c'est une méthode contre nature. Tu vois que sur le plan mental, on dit que l'isolement, c'est l'un des indicateurs de problèmes mentaux, quoi. Quand
oui,
quelqu'un a des problèmes psychiques, par exemple, quand on est déprimé,
oui,
on a tendance à vouloir s'isoler, des autres, du monde normal. Donc social isolation devient un indicateur. Mais ici, dans le COVID-19, l'isolement est justifié comme un moyen de survie, quoi, de gérer la situation. Et comme j'ai dit que c'est contre nature,
oui,
ce qui fait que ça crée de problèmes sur le plan psychique, sur le plan mental.
Oui. Je vais vous interrompre, mais là c'est un isolement, il y a un isolement, je dirais volontaire ou auto-induit, mais il y a cet isolement-là, il est imposé de l'extérieur.
Justement. Et là, ça crée une autre dimension, cette imposition-là, qui est perçue comme une certaine invasion à sa liberté individuelle ou personnelle. Quand il y a cette ingérence-là, imaginez un peu quelqu'un qui vient d'un pays africain où l'autorité politique ou militaire est abusive. Ça fait partie du trauma de cet individu. Alors la personne arrive en Australie, elle se retrouve dans le COVID-19. Au départ, il y croit, et après un certain moment, il se rend compte que ce qui se passe là, c'est n'est qu'une façon d'être contrôlé, d'avoir ses libertés réduites, et tout ça. Donc il y a cet élément de coercion qu'une personne qui a survécu le trauma dans un cadre dictatorial ou bien d'abus de pouvoir. Donc l'isolement deviendra à ce moment-là un déclencheur des souvenirs du passé, quoi.
Oui.
Ce qui fait que, en réalité, la personne qui a été traumatisée réagit au passé dans le présent. Donc là, il est en train de réagir aux souvenirs du passé qui l'ont traumatisé. Mais ces souvenirs-là sont déclenchés par des expériences dans le présent. Alors donc, l'isolement peut devenir un déclencheur des souvenirs traumatiques.
À partir du moment où ces souvenirs sont déclenchés, comment se manifestent-ils et votre intervention?
Quand ces souvenirs sont déclenchés, alors la personne commence à vivre dans le passé, mais au présent.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que il réagit d'une façon bizarre et il y a ce petit problème là, par exemple en famille, où la personne deviendra irritable, impatiente développe des problèmes, par exemple d'insomnie, où la personne pour gérer un peu ça va s'engager dans l'automédication, à se soigner soi-même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers l'alcool, l'alcoolisme. Ils commencent à trop boire ou bien trop fumer pour essayer un peu de survivre quoi dans cette situation. Le problème sera que parce que il s'agit bien du trauma du passé, ça crée une certaine confusion dans le chef de ceux qui sont autour de la personne quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à lier la réaction, l'intensité de la réaction, la nature de la réaction à la réalité même dans laquelle on se trouve. Imaginez par exemple que vous êtes en famille avec une personne qui a été traumatisée.
Oui.
Et vous vous retrouvez dans la situation de COVID-19 avec cet isolement, et que le passé soit, les souvenirs du passé soient déclenchés. Donc lui, il réagira différemment par rapport au reste de la famille qui n'a pas été.
Oui, et quand ce genre de situation se présente, parce que là, la personne n'a pratiquement pas de... Moi, je pense à des confinements prolongés, par exemple des confinements qui durent plusieurs semaines, avec des interdictions même d'aller, de sortir, travailler quand on n'est pas un travailleur essentiel. Et ces situations se multiplient. Quelle est votre intervention et quels sont les messages que vous envoyez au gouvernement aussi quand vous voyez ce genre de phénomène se multiplier?
Nous travaillons avec d'autres organismes ou services. Il y a souvent des rencontres entre services et là on se partage un peu les expériences de nos clients.
Oui.
Et là, ça prévoit aussi un cadre d'information, ce qu'on constate sur terrain, et alors communiquer à des échelons supérieurs. Bon, là, c'est à notre niveau, comme les managers ou bien les psychothérapeutes,
oui.
Mais au niveau de top management, notre CEO, il a accès aux sénateurs, aux membres du Parlement, et souvent le gouvernement invite les commentaires, demande à ce qu'on leur dise, leur donne une idée de l'impact du COVID, parce qu'on parle du COVID-19,
oui.
sur les populations. Là, on voit un peu, on fournit des informations crédibles, tirant un peu de notre expertise. Bon, là, c'est au niveau de gouvernement, parce qu'il y a aussi un aspect à advocacy.
Oui.
Dans ce que nous faisons, donc on plaide en faveur de nos clients, de la population, de la communauté. Ça, c'est au niveau du gouvernement, les policy makers qui prennent des décisions, orientations sur le plan gouvernemental. Là, je dois dire que en Australie, c'est bien dans le sens que le gouvernement, dans un sens, travaille avec les experts. Bien que, bon, on ne peut pas dire que leurs décisions tout le temps reflètent les avis des experts.
Oui.
Il y a quand même des contraintes à leur niveau que nous ne pouvons pas, contrôler, qu'on ne comprend pas. Maintenant, au niveau de la communauté, à Stade, par exemple, il y a ce qu'on appelle le community development. Là, nous travaillons avec les communautés, diverses communautés, dans l'éducation, par exemple, ce qu'on appelle capacity building, développer un peu la capacité de gérer des situations au niveau communautaire, tirant aussi de ce qu'on a appris pendant des années, quoi, dans le cadre de notre expertise ou le travail que nous faisons. Donc, il y a ça au niveau de communauté. On est un peu de créer un peu awareness.
Ouais,
pour faire attention un peu les différents facteurs qui jouent sur le plan psychologique, quoi, comme impact. Diverses expériences, dans ce cas, COVID-19. Bon, là, c'est le niveau de la communauté. Maintenant, il y a le niveau des individus. Parfois, il y a des individus qui sont référés, qui viennent à nous par diverses voies. Et comme j'ai dit, il y a aussi directement des aides d'eux-mêmes. Ils peuvent appeler. Ce que nous faisons, c'est que essayer un peu de conceptualiser leur état mental de façon contextuelle, quoi. On ne voit pas seulement un symptôme en isolement, mais comme partie d'un contexte. C'est comme un peu la différence entre l'arbre et le fruit, ou les branches et l'arbre. Et souvent, c'est les branches, le fruit, sont les symptômes, mais il y a des racines. Souvent, c'est tout un cadre. Alors, on offre des traitements appropriés selon l'état de tout un chacun, quoi. Parfois, un individu peut se présenter et dire que j'ai tel ou tel autre symptôme, et en évaluant un peu la situation, considérant le contexte, on se rend compte que pour aider cet individu,
oui,
il y aura besoin d'impliquer la famille ou bien d'impliquer les gens qui lui sont proches, ou bien de même impliquer l'église ou bien la communauté, quoi.
Justement, je voulais en venir à ces communautés, parce qu'avec les confinements et les mesures des restrictions des mouvements mises en place par les gouvernements, moi je pense à certaines communautés qui avaient retrouvé une certaine stabilité et qui s'organisaient en tant que communauté, qui se réunissaient pour échanger des informations, qui ont des festivals, qui ont des événements qui leur permettent quand même de se regrouper, et qui ont aussi des églises ou des communautés de prière qui leur permettent de gérer, d'intégrer non seulement la culture, de s'acclimater, de s'accoutumer, et on leur enlève tout ça.
Dans le cas de COVID-19.
Du COVID-19, on leur enlève tout ça, ce qui fait que, bon, on les replonge dans le traumatisme.
Justement, c'est pourquoi, si tu suis les informations, je sais que tu suis les informations, ceux qui suivent les informations, vous comprendrez que le gouvernement a même augmenté l'enveloppe pour les organisations qui s'occupent de l'état mental, quoi. Mental health. Là, c'est une façon de dire que officiellement ils reconnaissent que le COVID-19 a un certain impact sur la santé mentale des citoyens australiens. Ils reconnaissent, mais en même temps, pour eux, c'est comme si c'était un mal qui est nécessaire, quoi. C'est ça la réalité. Il y a une crise dans ce domaine-là. On ne dirait pas que c'est la COVID-19 qui a créé cette crise,
oui,
mais c'est la façon du gouvernement de gérer la COVID-19 qui a créé cette crise.
Et voilà, avant de vous laisser partir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter auquel il faut absolument porter à la connaissance de nos auditeurs?
Je dirais que quand on vit dans une communauté, donc on est, disons, gardien l'un de l'autre ou bien les uns des autres, et que, du fait de l'impact de COVID-19 sur le mental,
oui,
des Australiens en général et en particulier des Africains, donc il est important que même si nous ne pouvons pas garder contact, avoir ce contact physique, on cherche à développer d'autres moyens, à garder contact avec vos concitoyens, vos frères et sœurs, même de façon virtuelle ou bien à distance. Ça fera du bien, quoi. Mais il y a aussi les encourager à savoir qu'on ne peut pas être expert de tout et que, bon, il faut toujours pas minimiser la crise. bien qu'il y a cet isolement et tout ça, bon, il y a des services comme le nôtre, STAT, qui continuent à offrir nos services à la population. Vos références sont les bienvenues. Appelez-nous s'il y a besoin et n'attendez pas à ce que la situation puisse empirer, quoi. Dès que vous identifiez que, bon, il y a des petits soucis par rapport à un membre de famille, à un membre de communauté, et que cette personne-là a besoin de l'aide, n'hésitez pas de contacter STAT. On fera ce qu'on a toujours fait. Très souvent, on a des très bons résultats. Ouais, c'est ce que je dirais. Et puis, peut-être en terminant, je dirais que la compréhension de l'état de santé mentale n'est pas tellement très avancée dans le monde africain, où le mental, c'est pas tangible comme l'état de santé physique. On a tendance à le reléguer au monde spirituel, pendant que c'est pas nécessairement spirituel, ça peut être justement simplement mental et psychique. Et un spécialiste ou un psychologue ou un counselor ou un psychothérapeute pourra aider, quoi, améliorer la façon dont les gens vivent en communauté. Si nous pouvons un peu dépasser ce stigma que nous avons souvent sur ça, en tant qu'Africains, je crois que nous aiderons à beaucoup de des membres de nos communautés, quoi.
Voilà, Monsieur Chimanga Béa, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous éclairer.
Merci Bertrand, et je crois que ça ne sera pas la dernière. Bon, je souhaite à vos auditeurs bon entendement, quoi, que ce temps ne serait pas perdu pour eux.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.